Bonjour à tous, je m'appelle Justin Douillet, je suis animateur sur l'une des radios du groupe RTL en Belgique, producteur sonore et voix off.
Bonjour à tous, je m'appelle Cécile Flora Lefebvre et je suis experte en bilan de personnalité, plus particulièrement avec l'Ennéagramme, le MBTI et le DISC.
Voici votre podcast, Les secrets de la connaissance de soi. On accueille François dans ce podcast, il est grand reporter, il a 60 ans. Bonjour François.
Oui, bonjour.
Merci en tout cas d'avoir répondu présent à notre invitation concernant ce podcast sur la connaissance de soi. On va démarrer par une première question. Quel est l'intérêt de bien se connaître, François, selon toi?
Alors l'intérêt de bien se connaître, c'est d'être, je pense, acteur de son développement. Parce que s'il n'y a pas connaissance de soi, il va manquer une capacité à tracer sa vie avec comme une boussole intérieure. Et se connaître, c'est apprendre à connaître cette boussole-là. C'est un peu comme une navigation en haute mer, hein. La vie est faite d'événements, de grandes marées, parfois de tempêtes. Et si on connaît cette boussole, si on a pris le temps d'avoir une quille à son bateau, cette connaissance de soi va permettre de tracer sa route en évitant trop de dégâts. Je veux dire, c'est d'abord aussi se préserver, se connaître aussi pour se préserver et garder son identité.
Merci François, je regarde Justin et je souris parce que quand on s'est connus, il me charriait sur le fait que je comparais le corps humain à une voiture et un tableau de bord de voiture, et donc toi tu nous le fais avec le bateau, j'aime beaucoup.
C'est beau aussi, hein, c'est beau aussi.
Et en fait, effectivement, c'est l'idée de comprendre, de savoir interpréter la nature de nos voyants rouges ou des bruits de moteur, etc. Effectivement, si je connais bien mon bateau, si je sais écouter les bruits, je sais lire la mer, je sais lire le plan, je sais lire tous les signaux qu'il y a sur mon bateau, effectivement, je navigue avec beaucoup plus de sérénité et de fluidité. Et effectivement, on l'apprend pas quand on est petit, ça. C'est souvent dû à un événement de vie qu'on va tout d'un coup avoir besoin de reconnecter à cette boussole.
Tout à fait. D'ailleurs, moi, j'ai sur mon bureau un sextant. C'est pas une boussole, mais c'est un appareil qu'avaient autrefois les navigateurs pour se repérer en haute mer, hein, grâce aux étoiles. Donc, vous voyez, c'est pour moi très important cette dimension de se connaître, avoir ses repères, savoir lire sa trajectoire, savoir la modifier. Et ça, on est l'acteur de ce développement, de ce voyage, en tout cas, oui.
Alors, pour justement apprendre à bien se connaître, il y a différents outils que tu as appris au fur et à mesure de ton existence, François. Quels sont les outils qui t'ont vraiment aidé, qui ont permis justement de débloquer certaines situations, de te mettre en mouvement, d'initier des changements?
Premier outil, c'est il y a une personne qui, quand j'avais 18-19 ans, qui a été influente pour moi, qui travaillait dans un outil qui s'appelait le Persuadité Relations Humaines. Et il y avait des exercices d'observation de soi à travers des travaux personnels d'analyse, et on apprenait à prendre conscience de ses fonctionnements. Et moi, j'ai pris à ce moment-là, par exemple, je suis quelqu'un de fonceur, qui mesure pas toujours ses forces, qui est très généreux, et j'ai appris par ces travaux personnels d'analyse à me rendre compte que je pouvais être aussi un peu plus peut-être mesuré, un peu moins dans l'excès, et puis à mettre peut-être plus de réflexion sur mes actes. Et ce que cet outil qui s'appelle PRH à l'époque, m'a appris à suivre mes intuitions. C'était ça, suivre ses intuitions profondes. Et ça a été déterminant pour moi quand après deux premières années de médecine où j'avais réussi le concours en redoublant, j'ai vécu un moment un peu de grand vide existentiel, et j'avais du mal à me projeter dans l'avenir. Donc ça c'était au niveau de mon bateau dans la traversée, ça c'était un premier coup dur. Et ce qui m'a aidé, c'est cette boussole. Et cette boussole m'a indiqué, j'avais un cousin qui était journaliste d'un grand reporter dans un grand quotidien, et j'ai passé 3 semaines avec lui. Et à ce moment-là, en voyant vivre ces grands reporters, je me suis dit, c'est ça ma vie, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, je n'ai pas poursuivi en médecine, au désarroi de pas mal de mes proches qui m'ont traité parfois un peu d'instable, donc c'était pas très agréable à entendre. Mais je savais que c'est cette boussole qui était celle de ma vie et que c'était elle qui me guidait. Et aujourd'hui, je peux dire que je ne regrette absolument pas ce choix-là. Au contraire, il a été déterminant. J'avais 19-20 ans, quand je l'ai posé. Donc voilà le premier cap de ma boussole, ce cap conscient, ce cap que j'ai vraiment assumé ensuite.
Tu as parlé d'un mot, François, qui est l'intuition. Et je l'entends beaucoup utiliser en ce moment. Et j'aimerais revenir sur la définition de l'intuition, parce que trop peu de gens l'écoutent. Et c'est vraiment très très dommage, parce que l'intuition, c'est comme une connaissance immédiate, comme une espèce de flash qui t'arrive avant même que ta conscience ou ton mental s'en soit emparé. C'est justement au moment où le mental s'en empare que et il dit oh là là, mais c'est pas trop rationnel cette histoire, du coup je vais pas l'écouter. Et en fait, souvent l'intuition, elle va surgir sans vraiment une raison apparente. Elle est très rapide. C'est vraiment une fraction de seconde, et c'est très important de l'écouter, parce que elle est reliée à votre inconscient et elle vous amène souvent au bon endroit. Et très souvent, on est dans une société où les gens vont vouloir contrôler, vont vouloir comprendre, vont vouloir analyser et surexploiter le préfrontal. Or, l'intuition, elle prend pas naissance ici. C'est vraiment cette espèce de fraction de seconde qu'il est très important d'écouter, et qui peut vous amener justement à la bonne trajectoire. Donc merci d'avoir amené ce thème-là, parce qu'il est très important. On a tous une intuition sur certains thèmes, hein, selon nos profils de personnalité. Et en l'occurrence, vraiment, je vous invite, si vous nous écoutez là, à vous reconnecter à votre intuition. Alors souvent on me dit, hey, comment on fait grandir l'intuition? Ben justement, tu la nourris, tu l'écoutes, parce que ce sur quoi je pose mon attention va prendre de l'extension. Donc vraiment, faites-la grandir, nourrissez-la, et plus vous allez la nourrir, plus vous allez l'écouter, et plus vous allez voir qu'elle va se manifester.
Oui, tout à fait. Oui, ça se nourrit. Ça se nourrit par le fait que cette intuition, quand on la suit, elle porte du fruit. Elle va donner des résultats heureux. On se sent bien. Moi, quand j'ai commencé ces études de journalisme, je me sentais bien, je me sentais à ma place. Quelque part, cette petite voix intérieure me disait, ben, tu as eu raison de m'écouter. Et c'est, je pense que c'est là où l'intuition, elle va avoir, par un feedback, elle nous fait ce retour de dire, mais voilà, tu es dans la bonne direction.
Oui, parce que souvent, l'intuition, elle est accompagnée d'une réaction émotionnelle ou d'un ressenti physique. Des fois, il y a des gens qui sont dans le corps, ça va être des frissons, ça va être une sensation. Et malheureusement, on n'a pas appris à l'écouter, et trop peu de gens l'écoutent. Vraiment, j'insiste là-dessus en disant, alors si vous nous écoutez, peut-être vous vous reconnaissez, ah ouais, mais c'est pas rationnel, ouais, mais ça sort d'où ce truc-là, pourquoi j'écouterais mon intuition? Et en fin de compte, vraiment, je vous invite vraiment à le faire. Parce que parfois, c'est même un malaise, c'est même vous arrivez quelque part, vous sentez qu'il y a un truc qui est pas net. C'est très, très, très important de l'écouter.
Oui, puis il s'agit d'intuition profonde, c'est-à-dire qu'on sait qu'au niveau du cerveau, on a trois dimensions entre le reptilien, le limbique et le néocortex. Et c'est cette intuition que j'ai eue vraiment à 20 ans est une intuition qui prenait toutes les dimensions de ma personne, aussi bien l'intellect que le cœur, que le corps. Enfin, je voyais que j'étais fait pour ce métier-là et que c'était pas être dans un hôpital, dans un cabinet médical. Moi, il me fallait des espaces ouverts, et puis de pouvoir donner la parole à ceux qui n'arrivent pas à parler, puisque c'est un peu ça le métier du journaliste. C'est être médiateur de situations qui, grâce au journaliste, deviennent des événements, et puis sont connus de tous. Et donc, cette intuition m'a montré d'autres aspects de moi que je ne connaissais pas à 18-20 ans. Voilà, où être médecin était peut-être sans doute un désir de mes parents ou de mes proches, mais c'était pas ce que profondément je sentais à vivre. Donc l'intuition m'a révélé à moi-même, oui. Ouais.
Alors François, tu nous as partagé cette première étape clé de ton existence à 18-20 ans, c'est ce que tu nous expliquais. Il y a un autre moment dans ta vie qui était charnière, on peut dire, vers 40 ans, c'est ça?
Oui, vers 40 ans, on parle de cette fameuse crise du milieu de la vie. On se retourne sur sa vie puisqu'on est au versant, deuxième versant de sa vie. Et on se dit, qu'est-ce que j'ai fait, quoi, de la première partie? Et là, c'est moi qui ai choisi. C'est pas que j'allais mal, hein, mais simplement, je me disais, comment retrouver un second souffle pour cette partie de ma vie. Et c'est là où j'ai fait un travail de développement personnel. Alors un travail avec un analyste, mais aussi à travers la découverte d'outils comme l'analyse transactionnelle, c'est-à-dire Cet outil permet de repérer en soi les états du moi, notamment l'état de l'enfant en nous, l'état de l'adulte, l'état aussi du parent, parent nourricier ou parent normatif, enfin voilà. Mais ça montre que ces trois états vivent en nous, se complètent. Et je vais prendre un exemple pour ça. Il se trouve que dans mon travail, j'ai pu aller sur des terrains de guerre et où je suis très dans le tragique, donc tout est compliqué, difficile, je vois de la souffrance. Et je me souviens d'un soir où j'étais comme ça, un peu prostré par cette violence du monde, dans différentes parties, cette partie du monde où j'étais. Et j'ai vu un magnifique coucher de soleil. Et je me suis souvenu qu'enfant, j'aimais beaucoup les couchers de soleil. Et donc, je me suis rappelé l'enfant que j'étais. Vous voyez, donc ce que montre l'alignement actionnel, c'est d'aller se connecter à cet enfant. Et j'ai vu ce coucher de soleil qui a peut-être duré une demi-heure. Et ça a apaisé l'adulte qui était inquiet, voilà, qui était inquiet du lendemain, de ce qui allait se passer. Et j'ai compris combien cet enfant pouvait aussi m'apaiser et avait un côté contemplatif. Et ça, ça a été, vous voyez, donc cet outil d'analyse transactionnelle a été pour moi important dans ces moments-là, de stress notamment, de stress important.
Mais oui, parce que l'anxiété, c'est quand on se projette dans le futur. L'anxiété, généralement, c'est quand on est en train de planifier, d'anticiper. Et là, en fait, tu as expérimenté aussi la magie du pouvoir du moment présent.
Oui, tout à fait, oui, oui. L'instant présent où simplement exister par mon souffle, je revois le moment être là, les odeurs au bord de ce lac, et puis ce soleil qui tombait dans le, avec cette boule de feu, quoi, quelque chose de merveilleux, quoi, enfin, qui me donnait une autre dimension et qui me permettait de quitter un peu cet endroit du monde qui était en guerre et de me dire, mais voilà, ce soleil brille au-dessus du monde, quoi. Et ça m'a... J'en pensais beaucoup à l'enfant que j'étais, contemplatif, qui aimait bien. Ces énergies, voilà, qui sont dans l'enfance, et l'analyse transactionnelle permet de s'y connecter. Elle parle de l'analyse transactionnelle de l'enfant libre. Cet outil de développement personnel m'a permis de me connecter à cet enfant libre que je vis toujours.
C'est drôle que tu parles de l'enfant, parce que finalement, eux... ils détiennent un super pouvoir qu'on perd complètement quand on est adulte, c'est le fait d'être à ce qu'ils font à 100%. C'est pour ça qu'un enfant, il peut perdre même la notion de faim quand il est en train de jouer, parce qu'il est dans un état de flow. Il est en train de s'éclater, il est 100% à ce qu'il fait, il est en plein dans le moment présent, il kiffe complètement, et tout d'un coup, en fait, les adultes le ramènent à « Ah, faut aller plus vite, et puis faut être efficace, il faut se dépêcher, il faut faire ci, il faut faire ça, et l'anticipation d'après. » Alors que l'enfant, il est vraiment pleinement connecté. Et s'il y a des gens nous écoutent et sont très anxieux, effectivement, se reconnecter à sa part d'enfant et se remettre dans un état de flow, ça peut être soit par la peinture, soit par une activité qui vous fait vraiment du bien et qui vous fait vraiment plaisir, ça permet d'expérimenter justement cet état dans lequel il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'obligation de résultat, juste le fait de se faire plaisir, de se faire du bien. Et effectivement, ça permet d'apaiser ce mental qui se suragite sans arrêt, qui nous met dans une anxiété, dans un stress permanent. Merci pour cet apport, François.
François, on pourrait aussi évoquer un outil très intéressant. Il s'agit de l'énéagramme. Je pense que tu l'as aussi découvert et pratiqué en quelque sorte. Est-ce que tu pourrais nous en toucher quelques mots ?
Alors, l'énéagramme, c'est un outil qui permet de repérer ce qu'on appelle... sa base, ce prisme de perception qu'on a du monde, ce prisme privilégié, et on le découvre à travers 9 possibilités, puisque Enéa en grec c'est 9, et Gramein c'est écrire en grec, donc c'est 9 façons d'écrire la vie. Et cet outil m'a passionné parce que j'ai pu découvrir mon prisme de perception privilégié. Il se trouve que depuis que je suis enfant, je vois les choses de manière où il faut être fort, avec un refus de la faiblesse, où j'ai pas peur. Vous voyez, mon métier de grand reporter, ben, c'est même pas peur, hein, d'aller là-bas, de voir des choses parfois horribles, et souvent horribles. Et ce prisme de perception, il est spontané. Je suis quelqu'un qui a le sens de la justice, qui protège les plus pauvres, enfin ceux qui sont en difficulté, spontanément je les protège. Mais moi, je sais pas me protéger suffisamment. Donc c'est ce prisme de perception que de l'énéagramme m'a permis de mieux connaître mes forces et mes faiblesses. Et l'avantage de ces outils, c'est que ça met des mots rapidement sur des réalités que l'on vit. Moi, je me suis vu comme dans un miroir avec l'énéagramme. Je me suis dit, ah, je suis comme ça. Donc, il faut que je ralentisse. Je suis toujours en mouvement, toujours à combattre. Et bien, je vais apprendre à baisser les armes. Je cours tout le temps. Et bien, je vais apprendre à avoir un tempo plus doux. La vie, pour moi, est un combat. Et bien, je vais découvrir l'innocence de la vie. Vous voyez, ça a été, quand on peut, quand on voit, et c'est la force de ces outils, notamment de l'énéagramme, c'est que quand on perçoit son prisme de perception, l'énéagramme montre des chemins pour en sortir, pour ne pas y rester, pour découvrir d'autres ressources en soi. Par exemple, l'énéagramme m'a permis de découvrir des émotions, pour moi, plus au niveau esthétique. Et je participe à une chorale gospel où par le chant, c'est quand même des chants, sont des cris et des chants gospel, des cris de libération, mais il y a des émotions collectives importantes qu'on peut avoir en concert et qui me montrent que la vie est belle, que la vie peut être douce, que la vie peut être savoureuse, qu'il y a du plaisir. Et ça me met dans un lieu d'innocence, le chant, la chorale, avec le pupitre des basses, j'ai appris consciemment, j'ai choisi ce chemin, il y a de l'innocence, de la beauté qui transcende, beaucoup de choses compliquées, quoi. Mais l'énagramme m'a permis de sortir de ce prisme, oui. Me permet toujours aujourd'hui d'ailleurs, et c'est jamais fini, oui. Mais c'est ça l'intérêt de l'énagramme, repérer le prisme de perception. Parmi les neuf, et il y a des moyens d'en sortir par ce qu'on appelle les ailes et les flèches, parce que ça c'est un langage technique, mais pour aller chercher d'autres ressources en soi qui sont disponibles et à portée de main. Et donc là, quand on le fait consciemment, on rentre dans un développement personnel sur soi, et avec l'avantage d'avoir un peu comme une carte Michelin sous les yeux, c'est qu'on déplie cette carte et on sait quel chemin prendre. Donc on va plus vite. Et c'est vrai que l'énéagramme m'a aidé à aller plus vite dans le travail sur moi, oui, et d'en agir avec moi.
Merci François pour ton partage. En tant qu'experte énéagramme, je ne peux qu'approuver à quel point l'énéagramme est puissant et vraiment regorge de possibilités. Moi, j'appelle ça de la conscience de soi. C'est tout d'un coup mettre de la conscience sur nos fonctionnements, nos limites, nos zones de génie, et reconnecter à notre cadeau et à ce qui fait notre essence. Et effectivement, toi, t'as les pieds dans un profil de personnalité dont le cadeau, c'est vraiment la force, la clarté, la prise de position. Et on va retrouver de grands leaders connectés à cette dynamique de personnalité, notamment Simone Veil. Hein, il y a eu un film qui est sorti qui est absolument magnifique et qui est une ode au profil 8 de l'énéagramme. Et on voit à quel point elle met sa puissance au service des opprimés, au service de grandes causes, et à quel point ça peut faire bouger les choses dans le bon sens. Et le monde a besoin de toutes les dynamiques de personnalité. Encore faut-il que chacun se soit reconnecté et à ce cadeau, à cette essence, la fasse vibrer, l'honore. Moi, j'appelle ça retrouver la joie d'être soi. C'est vraiment honorer la coquille dans laquelle on s'est retrouvé. Parce que finalement, le corps dans lequel on s'est retrouvé, avec ses qualités, que ça soit la couleur de nos cheveux, de nos yeux, nos traits de personnalité, nos loyautés à papa, à maman, notre environnement nous a façonné d'une certaine manière. On a une part de liberté et l'idée, c'est d'aller retrouver la pleine liberté d'agir avec cette qualité, avec ce cadeau, avec ce don qu'on a tous en nous, et de le faire vibrer, de l'honorer, et de le faire partager au monde, parce qu'effectivement, de comprendre aussi quels sont les les dimensions qui nous entourent, les personnalités qu'on a autour de nous, de les comprendre, ça nous fait grandir et développer la compassion, la conscience de soi, la conscience des autres. Et nom d'un chien, ça fait du bien dans le monde dans lequel on vit.
François, tu expliquais que l'énéagramme t'avait permis évidemment de mieux te comprendre, d'intégrer aussi certaines choses, certains réflexes, certains mécanismes que tu avais. Mais dans ta relation avec les autres, qu'est-ce que ça a changé aussi? Est-ce que ça t'a permis, très certainement, tu nous le confirmeras, tu nous l'expliqueras sans doute, de te positionner par rapport aux autres en fait? Comment cet outil t'a permis de peut-être mieux te connecter ou mieux comprendre les autres?
Alors cet outil m'a permis d'être beaucoup plus bienveillant parce que je me suis rendu compte qu'il y avait 9 façons de vivre, de voir le monde, et que par exemple moi il y a une base qu'on appelle la base du médiateur, qui est la fameuse base 9. Moi j'avais beaucoup de difficultés, des agacements avec des personnes qui savent pas prendre des décisions. Moi je prends des décisions rapides, un peu du fait de mon métier, mais ça m'agaçait au plus haut point, quoi. Et j'ai compris que ces personnes qui ont du mal à prendre des décisions, ça repose aussi sur une peur de conflit en elles, peur du conflit avec les autres, qu'il peut y avoir des liens avec leur passé. Et là, j'ai appris à les rejoindre davantage là où elles sont et à comprendre qu'elles ne faisaient pas exprès pour me taquiner ou me titiller, mais que c'était comme ça en elle. Et donc j'ai appris de la patience, puisqu'on sait que l'énagramme, que quand on est avec une base 9, plus on lui met de pression, moins il réagit. Donc c'est l'effet inverse. Et j'ai eu comme collaborateur ces personnalités de type 9, et j'ai appris à être plus doux avec elle et plus bienveillant. Je crois que c'est ça. C'était un outil de bienveillance avec soi et avec les autres. Si je devais résumer l'énéagramme, je parlais de la bienveillance.
Ouais. Très souvent, je vais aller sur un terrain qui ne va pas être très agréable à entendre pour ceux qui nous écoutent. C'est que si, par exemple, on reproche à quelqu'un d'être un peu trop mou du genou, c'est souvent qu'on est un peu trop dur du genou soi-même. Quand on reproche à quelqu'un de trop prendre de place, c'est souvent que nous, on a du mal à prendre sa place. Et l'énéagramme, c'est un outil de connaissance de soi et non pas un outil de typologie de personnalité. Je l'ai trop vu encore utiliser en recrutement ou utiliser pour faire du typage sauvage. Et effectivement, c'est bien de rappeler que l'énéagramme, c'est un outil de connaissance de soi qui permet du coup, à travers soi, de mieux comprendre les autres, de mieux les appréhender. Parce que si je sais que moi, j'ai des facilités à prendre des décisions, évidemment que ça va être compliqué pour moi d'être entouré de personnes qui ont du mal à prendre des décisions. Si je suis rapide, je vais avoir du mal avec les gens qui prennent leur temps. Si je suis assertif, je vais avoir du mal avec les gens qui s'excusent d'être là parce que je vais pas comprendre. Parce que je comprends les choses au travers de ce que moi je connais. Et ce que je connais, c'est juste ma propre réalité et ce que je vis moi. C'est pour ça que tout le temps revenir à qu'est-ce que ça dit de moi. Voilà, cette personne qui m'agace ou ce truc que je supporte pas. Moi je pensais que les gens, au début je pensais que les gens faisaient ça pour me titiller. Moi, je dis tout le temps, personne n'est venu sur Terre juste pour vous pourrir la vie, même si parfois vous en avez l'impression. C'est juste, qu'est-ce que ça vient révéler chez vous? Qu'est-ce que vous auriez besoin d'assouplir, de transformer, de faire évoluer pour justement être moins mal à l'aise avec ces personnes qui vous renvoient à quelque chose que vous ne faites pas suffisamment? Si je suis effectivement un gros bosseur, que je suis un travailomane, quelqu'un qui va prendre du temps pour soi, qui va avoir un tempo plus lent, il va me faire monter au credo parce qu'il s'autorise à faire quelque chose que moi, je ne m'autorise pas. Et tout l'intérêt de l'énéagramme ou des outils de connaissance de soi, c'est ça, c'est d'aller voir toutes ces polarités et d'aller les explorer et de ramener un petit peu d'humour dans les parts mal aimées de soi et aussi d'huiler un petit peu les rouages et d'amener un peu plus de fluidité dans nos échanges, un peu plus de compassion, un peu plus d'amour. Et pour que, in fine, l'idée, c'est de mieux se connaître pour mieux communiquer, parce qu'on est rarement tout seul chez soi, évidemment. On est souvent en interaction. Donc voilà ce que je voulais apporter sur le sujet.
Oui, alors c'est important ce qui est dit, parce que je vais donner une formule qui est peut-être un peu provocante, mais c'est gratter, c'est gagner. C'est-à-dire que ce qui nous gratte, moi, ce qui me gratte, c'est-à-dire les choses qui peuvent me déranger, qui peuvent m'agacer. Les outils de développement personnel permettent de comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe en moi. Donc, moi, je pose la question, mais où je suis? Qu'est-ce qui se passe? Donc, plutôt d'être dans un regard extérieur, à réagir de manière parfois, comment dire, un peu conflictuelle, je regarde qu'est-ce qui se passe en moi, j'interroge. Et quand ça gratte, c'est souvent une occasion d'apprendre des choses sur moi. D'où l'expression que je me permets, gratter, c'est gagner. Mais je trouve que quand on voit les choses comme ça, eh ben, effectivement, au grattage, on peut gagner quelque chose.
Il y a un autre outil, François, que tu aimerais nous partager dans ce podcast?
Alors, il y a l'outil de ProcessCom que j'ai suivi aussi, qui est un outil où, alors, c'est pas comme l'énagramme où il y a 9 bases, là, il y en a 6. Et... Donc, on apprend à repérer quelle est toujours sa base principale pour pouvoir évoluer. Alors, moi, je vais revenir sur l'histoire de la base principale. C'est que c'est cette tendance profonde que l'on a depuis l'enfance et que c'est ça que l'on travaille en développement personnel. Pourquoi ? Parce que sinon, on est comme une photocopieuse, on resserre toujours la même copie. Et je vois le petit garçon que j'étais, qui était un petit garçon... fonceur, sans repos, toujours en action, ben j'ai appris que à vivre autrement, en mettant de la douceur. Voyez, ce petit garçon aurait pu servir la même photocopie toute sa vie, toute ma vie. Et ben aujourd'hui, j'écris autrement. J'écris avec lui, mais j'écris autrement ma vie. Et c'est ça l'intérêt de ProcessCom, que ce soit repérer sa base, ses bases et différents étages de son immeuble, c'est qu'on a pouvoir, par la conscience, de changer des fonctionnements inconscients. Et je peux vous dire, il y a vraiment une joie à évoluer grâce à ces outils-là.
Et j'aime bien que tu dises évoluer et pas changer, parce que fondamentalement, archaïquement parlant, il y a notre langue maternelle qui bougera jamais. Par contre, on peut la faire évoluer, on peut y ajouter un accent, on peut y ajouter du débit... de la hauteur, et c'est très important de prendre conscience de ça. C'est que moi j'aime pas dire le mot changement, j'aime bien dire évolution, transformation, parce qu'on transforme des choses, on va les polir, on va les ajuster. Et effectivement, la ProcessCom, c'est un outil que moi j'ai découvert dans un spectacle humoristique qui s'appelle ProcessCom. C'est super drôle et c'est six bases effectivement, et on a tous des phases. Donc, il y a l'Energizer, le Travail Human, le Promoteur, etc. Et c'est très intéressant parce que, encore une fois, que ce soit l'Enneagram, la ProcessCom, le MBTI, ils servent tous la même, ils sont tous tendus par les mêmes principes. Et en plus, ils ont tous le même but, c'est mettre de la conscience sur nos fonctionnements et découvrir comment on peut, faire autrement et découvrir les gens qui nous entourent et amener un peu plus de fluidité dans nos échanges. Un peu plus même, je vais me permettre le mot, mais d'amour dans nos relations pour que ça se passe mieux. Parce que je pense pas qu'il y ait grand monde qui adore s'engueuler tous les matins avec sa collègue, pas pouvoir piffrer son boss, pas comprendre son conjoint. Je pense que tous au fond de nous, on aimerait avoir les clés pour apprendre à mieux communiquer et mieux se comprendre. Sauf que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir ces outils mis devant dans leur chemin ou dans leur vie. Et donc, si vous nous écoutez, sachez que ça existe. Il y a des clés qui vous permettent de comprendre les autres et de vous comprendre vous-même.
Si on doit résumer, François, le développement personnel, comment tu le résumerais, toi ?
Moi, je le résumerais d'abord par un goût pour sa vie, pour une vie pleine, avec le sentiment d'accomplir quelque chose dans sa vie. Je crois que le développement personnel, ça part d'un désir de d'oser se dépasser... ses propres compulsions, cette propre photocopie qui serait autrement servie toute sa vie s'il n'y avait pas de la conscience. Je pense qu'il y a d'abord ce désir. Et puis, il y a le fait de ressentir qu'on est acteur de son développement. Finalement, qu'on a, c'est ce que me disait cette personnalité qui m'a marqué à 18-20 ans, qui était en fait un moine, un bénédictin, l'abbaye d'Aigugé, près de Poitiers, et qui me disait « mais tu as le livre en toi ». C'est-à-dire que c'est comme si j'avais en moi les clés. Elles étaient là, alors elles seront réveillées par des événements, mais que c'était en travaillant sur moi que je trouverais comment évoluer, comment tracer ma route, et que cette boussole, j'avais à la construire au fur et à mesure de ma vie, quoi. Donc je crois que c'est ça, le développement personnel, c'est être conscient qu'on peut être acteur de son propre développement. Et ça, c'est une force, quand on en est conscient.
François, qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui nous écoutent en ce moment, qui sont peut-être en train de traverser voilà, des épreuves, un moment compliqué, une remise en question, des personnes qui sont peut-être en ce moment même, où ils nous écoutent, à un moment charnière, clé de leur existence. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ?
Alors, je peux que repartir de ma vie et repartir de ce que je vis, mais moi, s'il y avait un seul conseil, c'est de repérer ces personnes qui vous attirent, qui ont pu traverser des épreuves et qui en sont sorties par une forme de résilience, et de voir ce que ça déclenche en vous, ce que ça va ouvrir comme possibilité d'évoluer. Et voilà, de repérer par ces personnes qui nous attirent, qui sont un peu comme des héros, c'est-à-dire qu'elles ont réalisé dans leur vie quelque chose qu'on n'a pas encore réalisé, mais qui est possible. Et voyez, elles sont devant nous comme un peu le prototype de ce qu'on pourrait être pour une part après la traversée de l'épreuve. Moi, je crois que c'est ça. Hein. Moi, c'est, je repère ces personnes-là j'aime les connaître. Alors, mon métier de journaliste m'a permis d'en approcher quelques-unes, mais aussi écouter ces résonances qu'elles provoquent et montrent que le chemin est possible. Ces personnes-là sont un peu comme des guides de montagne. J'ai fait de l'alpinisme, mais c'est vrai, ils sont en avant et elles tracent le chemin. Et donc, quand on repère, quand on les connaît, elle nous aide pour le chemin à suivre. Repérez ces guides, voilà, à travers des personnes qui vous attirent.
Mmh. C'est marrant que tu parles des guides parce que tout à l'heure, on a parlé brièvement du voyage du héros. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une zone d'inconfort, on est appelé à l'aventure, d'aller commencer à faire autrement. Et souvent, c'est quand le mentor arrive, donc on dit un mentor, mais ça peut être un livre, ça peut être un podcast, ça peut être un film. C'est celui qui va nous aider à passer la première étape pour passer de la zone de connu à la zone d'inconnu pour justement aller poursuivre notre périple. Alors quand je parle du voyage du héros, je fais référence évidemment à la théorie de Joseph Campbell qui parle des 12 étapes par lesquelles on passe tous hein, quand on vit une transition, un deuil, un grand changement de vie. Et effectivement, souvent, ce qui va nous éveiller ou la personne qui va nous aider à comme finalement symboliquement nous prendre la main pour bouger, ça va être notre mentor. Donc là, peut-être que le podcast que vous écoutez avec François, ça va faire partie des déclics.
Alors j'aimerais quand même que tu nous partages cette phrase que tu nous as confiée, François, qui est pleine de sens. Réussir sa vie, je te laisse la compléter.
Réussir sa vie ou réussir dans la vie. Alors, moi je les oppose pas parce que les deux sont liés. Quand ce moine de Ligugé m'avait posé la question, il m'était loup. Réussir dans la vie ou réussir sa vie? Je pense que les deux sont liés, mais réussir sa vie, ça implique de se connaître, d'être présent à soi, d'avoir conscience de soi, pour pouvoir agir avec soi. Et vous voyez, il y a un effort conscient. Réussir dans la vie, on peut être porté par des événements, par des opportunités, par voilà un milieu extérieur favorable. Par contre, réussir sa vie, c'est avoir l'œil sur la boussole, c'est être conscient qu'elle est là et l'écouter. Ce qu'on disait au début de ce podcast, c'est écouter ses intuitions profondes. Et donc, c'est il peut y avoir des surprises, il peut y avoir dans l'écoute des intuitions une ouverture à l'imprévu. Quand j'ai commencé l'étude de médecine, mon chemin était tracé. Et ben l'ouverture à l'imprévu, ça a été ce vide existentiel que je passe à 20 ans et je me rends compte que j'ai peut-être orienté ma vie autrement. Donc cette boussole a été déterminant pour pas seulement réussir dans la vie, j'aurais pu peut-être devenir médecin, mais réussir ma vie a été de faire ce travail de grand reporter qui a tellement de sens pour moi. Donc c'est ça, c'est pour moi le développement personnel, c'est un travail. Alors je crois qu'il faut le dire, c'est pas quelque chose de toujours facile, il y a des prises de conscience qui peuvent bousculer, mais profondément on est gagnant. Profondément, j'ai le sentiment toujours que quelque chose s'accomplit, se développe, se déploie, et que j'en suis un acteur humble, hein, parce que parfois il y a des choses qui nous bousculent, qu'il faut recevoir avec vulnérabilité, mais profondément l'impression d'être fidèle comme ça à des intuitions profondes et d'être j'aime bien l'image du skipper, voilà, qui traverse l'océan. J'ai eu l'occasion d'en interviewer quelques-uns, mais on est seul, voilà, dans son bateau, mais on trace sa route humblement, mais on sait qu'on a le cap, on sait qu'on a les outils à bord et l'intelligence de trouver les meilleurs chemins. C'est ça le développement personnel. Il y a vraiment un travail sur ça.
Oui, c'est toujours ce que je dis aux personnes qui viennent faire un bilan de personnalité. C'est derrière, à quoi ça va te servir? Qu'est-ce que tu as besoin de découvrir pour quel projet, pour en faire quoi? Qu'est-ce que ça va te permettre de transformer, de réaliser? Il y a souvent un pourquoi derrière qui est très, très, très important. Et apprendre à se connaître son profil de personnalité, c'est pas juste pour rigoler. Souvent, il y a une motivation qui est pas forcément consciente, mais l'idée, c'est de trouver des réponses, de mettre des mots sur des vécus, de sentir moins seul. Très souvent, j'ai des personnes qui me disent, oh là là, mon Dieu, je me suis rendu compte qu'on était plusieurs dans le même bateau. Et ça me rassure. J'en ai fait partie. Il y a parfois des personnes qui vont dire, ben, j'avais pas du tout conscience de ce que je renvoyais. Soit, effectivement, je suis intimidant ou je fais peur. Ou au contraire, je suis trop intrusif, ou je suis trop, et j'avais aucune conscience de ce que je pouvais renvoyer aux autres, et du coup, en ayant une meilleure conscience de ça, je vais pouvoir ajuster certaines choses. Et moi, je trouve que c'est trop beau d'avoir la curiosité, de se questionner, de grandir, de s'améliorer, de faire évoluer certaines choses pour devenir de meilleurs humains. Et ça fait du bien parce que, alors moi, le travail sur soi, je trouve qu'il y a un côté un peu dur dans le fait de travailler, mais l'idée, c'est effectivement de grandir, de se révéler, d'honorer et puis de retrouver la joie d'être soi, bien sûr.
Dans l'idée de travail sur soi, moi, j'aime bien l'image de désensabler une source, c'est-à-dire que ça demande d'enlever des cailloux, d'enlever des graviers, d'enlever... et de pouvoir laisser cette source jaillir. C'est dans le sens où il y a un travail conscient. On peut laisser la source enfouie sous les tas de gravier, mais on peut retrousser ses manches, y aller à main nue, et puis dégager pour que le meilleur puisse se jaillir, quoi. Donc c'est dans ce sens-là qu'il y a un travail sur soi. On va désensabler la source.
Si vous voulez me contacter pour réaliser un bilan de personnalité ou suivre l'un de mes programmes, rendez-vous sur www.cécileflora.com. Sur mes réseaux Instagram, vous me trouverez sous le nom cécileflora.enneagramme ou encore sur Facebook dans le groupe Cécile Flora fait de l'Enneagramme.